parmi les options qui se présentent aux Juifs, notamment de Russie, qui subissent un antisémitisme évident, fin 19e, début 20e, vous parlez de nationalisme, Alain Dikoff. Qu'est-ce qu'on entend par là, à ce moment-là?
Par nationalisme, il faut déjà, on ne l'entend pas quand je parle, mais il faut mettre un pluriel, parce qu'il y a plusieurs nationalismes juifs. Et le nationalisme le plus important qui s'est développé à la fin du 19e siècle, c'était celle qui était représentée par un parti qui s'appelait le Bund, B-U-N-D. Ça veut dire le lien, mais ça veut dire surtout, c'est l'acronyme de l'Union Générale des Travailleurs Juifs de Pologne et de Lituanie. C'était un mouvement de masse, socialisant, mais qui en même temps luttait à l'intérieur de l'Empire tsariste de l'époque pour que les Juifs obtiennent une autonomie en Russie, c'est-à-dire qu'ils puissent être représentés, par exemple, au sein du Parlement, par des députés juifs, et avoir une autonomie en matière éducative et en matière essentiellement culturelle. Ça, c'était le parti le plus important. Mais il y avait un autre parti qui lui était beaucoup moins important à l'époque et qui a pris plusieurs variétés, mais ce sont les différents groupes d'abord pré-sionistes et ensuite sionistes qui se sont développés. Eux, ils voulaient aussi une autonomie, voire beaucoup plus, ils voulaient un État. La grande différence par rapport au Bund, c'est qu'ils voulaient en même temps, enfin, ça passait par l'émigration, c'est-à-dire que cet État, ils voulaient pas le créer en Russie, c'est clair. Ils voulaient le créer, alors où
pour la question se posait.
Ouais, alors la question s'est posée un moment, je vais y revenir, mais disons assez vite, à partir de 1905, l'option était très claire, c'était de créer un État en Palestine. Le point important, c'est qu'il faut bien voir que si la masse de ceux qui vont adhérer au sionisme se trouve en Russie, y compris donc la Pologne actuelle, celui qui va vraiment donner l'essor intellectuel au mouvement, celui qui va le structurer idéologiquement et le structurer aussi organisationnellement, n'est pas un juif russe. C'est un juif qui vient de l'Empire austro-hongrois, qui s'appelle Theodor Herzl, qui est un journaliste au départ. Et son itinéraire à lui est en même temps aussi très intéressant parce que c'est un journaliste qui pense que l'avenir des Juifs, c'est de se couler finalement dans les sociétés dans lesquelles ils se trouvent. C'était un libéral, disons, en ce sens-là. C'est-à-dire que les Juifs qui veulent garder des traditions juives et être fidèles au judaïsme
peuvent le faire là où ils sont.
Là où ils sont.
Ils doivent le faire là où ils
absolument.
Sont.
Absolument. Et ils doivent lutter, dans le fond, pour avoir l'égalité des droits, pleine et entière. Bon.
Mais il y a un basculement à un moment donné.
Absolument.
Pour lui.
Il y a un basculement pour lui parce qu'il est correspondant d'un grand journal viennois de l'époque qui s'appelle la Neue Freie Presse. Il est correspondant donc à Paris et il va assister finalement à la dégradation du capitaine Dreyfus, qui était donc un juif, qui a été accusé, on le saura plus tard à tort, d'avoir trahi et d'avoir transmis des informations à l'Allemagne. Et en fait, cette dégradation du capitaine Dreyfus à la fin du XIXe siècle va le marquer profondément. Et ce qu'il va en conclure, c'est que si quelque chose de cette nature est possible, y compris en France, le pays où les Juifs ont été émancipés les premiers, après la Révolution française, en 1791 pour être précis, eh bien ça veut dire que la logique d'intégration des Juifs dans les pays d'accueil n'est pas possible.
C'est ça, échoué.
La voilà. Lui, il en tire la conclusion que c'est un échec. Et donc,
il faut trouver une autre solution.
Il faut trouver une autre solution. C'est-à-dire que l'émancipation, elle ne doit pas être individuelle, elle doit être collective. Elle doit être collective sous la forme que les Juifs voyaient, évidemment, autour d'eux. Ils n'étaient pas aveugles. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Eh bien, à partir du milieu déjà du 19e siècle, il voyait tout un tas de peuples s'agiter pour obtenir un État. Parce que c'est tout le mouvement des nationalités, hein. Les Hongrois à partir de 1848, les Polonais évidemment, qui voulaient à nouveau devenir indépendants, et d'autres peuples dont on n'avait quasiment jamais entendu parler, comme les Slovaques ou d'autres, qui veulent aussi au moins une autonomie, voire un État. Donc les Juifs, ils voient tout ça autour de... Les Grecs aussi, qui s'étaient battus pour l'indépendance au début du 19e, donc ils voient tout ça. Et ils se disent, il faut qu'on fasse la même chose. Et Herzl leur donne le cadre intellectuel pour
ça. Il théorise la pensée.
Il théorise, même si ce n'était pas un grand intellectuel. Il a saisi quelque chose, voilà. Il a saisi quelque chose, il a compris, enfin lui en tous les cas, a pensé que la solution, ça devait être la même chose que ce que les autres peuples autour de lui faisaient. Le point important, c'est qu'il y a l'idée d'un côté, il y a le mouvement qu'il va créer, qui va être l'organisation sioniste, mais s'il avait été tout seul, ça aurait été un utopiste, et on n'en aurait plus jamais parlé. La grande chance qu'il a, c'est qu'il va trouver les masses qui vont soutenir son idée, ces masses, il ne va pas les trouver en Europe de l'Ouest, parce que les Juifs de l'Ouest ne croient absolument pas à cette idée, ils pensent que c'est un utopiste, c'est un visionnaire, il est complètement à côté de la plaque, alors que les Juifs de l'Est vont en gros se saisir de cette idée, parce qu'ils sont déjà eux-mêmes travaillés par
ça. Ils sont très concernés par tout ça.
Parce qu'eux constatent qu'en effet, de toute façon, dans l'Empire tsariste, il n'y a pas d'évolution possible. Ils restent des sujets opprimés, et que, en tous les cas, pour une partie d'entre eux, parce que d'autres croient à l'idée révolutionnaire. Ils vont être actifs avec Lénine et d'autres pour l'avènement du communisme. Mais d'autres pensent que, de toute façon, ça aussi, je dirais, le communisme, c'est aussi une utopie. qui n'apportera rien aux Juifs in fine, donc il faut qu'ils créent un projet national à eux.
Le sionisme, en un mot,
l'appellation,
le mot en lui-même,
le mot, il est tout simplement calqué, en effet, sur le terme de Sion. Sion, c'est une colline qui existe à Jérusalem, qui est une toute petite colline, hein, qui est une sorte de figure un peu métaphorique pour l'ensemble de la terre promise. C'est même pas d'ailleurs Herzl qui va créer le mot, mais il va le reprendre de quelqu'un qui l'avait déjà créé en allemand, parce que tout ça se fait en allemand, c'est aussi la chose intéressante. Herzl écrit en allemand, c'est un juif totalement germanisé. Et donc, Sionismus, c'est le sionisme, il va créer l'idéologie avec isme en l'adjoignant à Sion, du nom de cette colline à Jérusalem.
Vous dites qu'il trouve un écho auprès des masses de juifs d'Europe de l'Est. Est-ce qu'il trouve aussi des appuis financiers auprès de juifs qui peuvent soutenir le mouvement?
Ça, c'est une question intéressante parce qu'il va faire une démarche, par exemple, auprès du baron de Rothschild à Paris, et il va se faire éconduire parce que Rothschild ne croit absolument pas à son idée, n'a aucune envie de mettre un sou là-dedans. Donc, il va avoir très très peu de soutien des philanthropes juifs qui auraient pu le soutenir à l'époque. Ceux qui vont l'aider financièrement, ça va être finalement des juifs relativement modestes qui vont chacun apporter un peu leur écho à droite à gauche, surtout en Europe d'ailleurs de l'Est, où ils étaient d'ailleurs pas très riches en général, mais où en effet des gens de diverses professions, ça pouvait être des médecins, ça pouvait, parce qu'il y avait quelques médecins quand même juifs en Russie, mais c'était souvent des petits artisans en Russie qui nous apportaient un peu d'argent, et ils ont collecté tout ça pour faire tourner l'organisation, mais leurs moyens étaient très très modestes au départ. En fait, non, ce que lui, et ça c'est vrai qu'il a une intuition très très forte, il se rend très bien compte que vu la situation qui est celle des juifs, c'est-à-dire un peuple qui à 98% est en diaspora, et qui réclame donc de s'installer sur un territoire où à l'époque il y a à peu près 500 000 arabes, c'est ça la réalité, et 25 000 juifs, c'est-à-dire rien du tout, il se rend bien compte que s'il veut réaliser ça, les juifs n'y arriveront pas tout seuls. Et donc sa grande intuition, c'est de dire il faut qu'il y ait un appui politique, et pendant sa vie qui sera assez brève, parce qu'il va mourir en 1904 à 44 ans, il va commencer des démarches auprès du grand-duc de Bade, auprès aussi des autorités russes, et surtout auprès de celui qui contrôlait à l'époque la Palestine, c'est-à-dire le sultan de l'Empire ottoman. Il fera chou blanc, mais l'idée est lancée quand même, c'est que le sionisme ne pourra pas arriver à ses fins simplement en comptant sur ses propres forces.
Est-ce que ça s'accompagne déjà de départs de juifs en Palestine, qui vont s'installer là-bas?
Oui. Alors ça, c'était d'ailleurs antérieur à Herzl, parce qu'en effet, il y avait déjà des idées un peu pressionnistes qui circulaient en Europe de l'Est. Et à partir des années 1880, après les pogroms les plus violents qu'il y avait eu à ce moment-là, il y a eu des vagues de départ, en effet. 30 à 40 000 juifs ont quitté la Russie à ce moment-là et se sont installés en Palestine. Tous n'y sont pas restés, d'ailleurs, parce que on oublie aussi de dire qu'il y a souvent des retours, et il y en a eu beaucoup à cette époque-là, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils arrivaient dans un coin complètement perdu, où il y avait énormément de problèmes sanitaires, et la malaria était absolument fréquente. Ils arrivaient vraiment dans un coin d'Orient auquel plus grand monde ne s'intéressait à l'époque. Il y a une redécouverte progressive de la Palestine au XIXe siècle, mais entre, je dirais, l'époque des croisades, c'est-à-dire ça, on remonte quand même au XIIe, XIIIe siècle, et disons le début du XIXe siècle, plus grand monde ne s'intéressait en Palestine.
Un désert.
Plus grand monde n'y allait. Et quelque part, évidemment, la redécouverte un peu de la Palestine, elle n'est pas seulement le fait des Juifs, d'ailleurs, parce que les chrétiens commencent aussi à redécouvrir la Palestine en ce moment-là, parce que c'est le début de nouveaux pèlerinages, parce que les moyens modernes de transport le permettent aussi, les bateaux en particulier, le chemin de fer. Donc c'est aussi, et les Juifs ne sont pas les seuls à y penser, mais c'est les seuls évidemment à avoir un projet politique.
C'est la Première Guerre mondiale qui va marquer un tournant décisif dans ce processus ?
Oui. Alors ce que la Première Guerre mondiale apporte, c'est précisément ce que Herzl n'était pas parvenu à obtenir, un appui extérieur fort. L'appui extérieur fort, il va apparaître en 1917, avant même la fin de la guerre, le 2 novembre 1917, avec la déclaration Balfour,
donc, qui
consiste à une promesse du gouvernement britannique, qui était la plus grande puissance de l'heure mondiale, à appuyer le sionisme, donc à appuyer le projet de création en Palestine, c'est ainsi que la déclaration est libellée, d'un foyer national pour le peuple juif. Donc c'est un engagement unilatéral de la Grande-Bretagne à soutenir ce projet. C'est une victoire inouïe pour le sionisme, parce qu'il faut se rendre compte que en 1917, ça fait 20 ans que l'organisation sioniste existe. C'est rien du tout.
Mais à quel titre les Anglais peuvent-ils faire cette promesse ?
Alors, ils le font, évidemment, ça c'est important, sans consulter les populations locales. Ça c'est clair, c'est un engagement unilatéral. Ils le font parce que ils savent déjà à ce moment-là qu'ils vont être parmi les vainqueurs de la guerre, ça c'est clair, avec les Français. Et ils le font comme un engagement parce que ils voient dans le sionisme aussi une capacité de créer en Palestine, finalement, grâce aux Juifs, disons, une base un petit peu qui leur servira aussi un peu d'appui sur la route des Indes, parce que les Indes étaient déjà dans leurs mains. Et bien sûr, le contrôle de la route des Indes, c'est-à-dire l'espace qui va de la Méditerranée aux Indes, passait par le canal de Suez, qui avait été créé peu de temps auparavant, et contrôler quelque part la Palestine, c'était un endroit stratégique. C'était un endroit où il n'y avait pas de ressources naturelles du tout, mais c'était un endroit stratégique, ça c'est sûr. Et ils ont pensé que l'arrivée de Juifs servirait quelque part à constituer une sorte de base qui soutiendrait finalement leur politique impériale.
Merci beaucoup. On vous retrouve demain.